Bonjour, merci de votre présence pour ce colloque qui est donc effectivement étroitement associé au travail que Frédéric Miguirou et moi-même avons fait pour l'exposition de Steyl. Comme vous le disiez, le colloque s'articule en trois temps. Le premier chapitre auquel nous invitons dans un premier temps, c'est cherche à définir qu'est-ce que le néoplasticisme. C'est finalement, dans l'exposition, l'enjeu de l'exposition était de montrer que le néoplasticisme, d'abord, est un mouvement collectif. C'est un mouvement collectif qui est partagé donc par un certain nombre d'hommes, une nébuleuse finalement d'individus implantés en Hollande. Cette question de l'implantation territoriale en Hollande au départ du néoplasticisme est extrêmement importante, assez peu connue et assez difficile à comprendre. Qu'est-ce que la Hollande au début du XXe siècle? Comment qualifier ces mouvements théosophiques qui portent finalement des groupes d'artistes à Amsterdam, à La Haye, à Rotterdam, et qui finalement sont les bases, les racines de l'art abstrait? Donc finalement, qu'est-ce que le néoplasticisme? C'est trois choses d'une certaine manière. Ce sont des hommes, en effet. C'est d'abord un concept, c'est d'abord une idée compliquée, une idée à tiroir finalement. Le terme même de néoplasticisme que Mondrian traduit du hollandais est en quelque sorte un mot valise. Il vient du néerlandais nieuwe beelding, la nouvelle image. Belt, ça se rapporte finalement. On entend le mot allemand de Bild, d'image, mais cette nouvelle image de quoi? C'est tout l'enjeu de la théorie que Théo van Doesburg va développer à partir de 1917. Cette nouvelle image, en fait, repose sur une nouvelle conception du monde qui repose sur cette société industrielle qui se généralise. 1917, la Hollande est quelque part à côté, dans une étrange neutralité pendant le premier conflit mondial, mais néanmoins la mécanisation des corps, la mécanisation des déplacements, la mécanisation du territoire est parfaitement à l'œuvre à la fin de ces années 1910, lorsque le mouvement de Steyl se concrétise autour et se synthétise finalement autour de cette figure qui est Théo van Doesburg. Donc c'est une nouvelle mise en forme, une nouvelle conception. Lorsque Mondrian et van Doesburg se rendront au Bauhaus et publieront l'un et l'autre deux ouvrages théoriques, ils parleront de Gestaltung, donc cette idée de la mise en forme. Finalement, le mouvement de Steyl, le néoplasticisme, la nieuwe beelding, c'est une nouvelle mise en forme, la création de codes contemporains, de codes modernes qui incarnent et qui sont à même d'incarner cette société en mutation, cette société industrielle, cette société mécanique. Mais De Steyl, c'est également une revue. Pour diffuser ces idées, Théo van Doesburg crée en 1917 une revue qui paraîtra donc de 17 à 1931, date à laquelle Théo van Doesburg décède. Cette revue est le réceptacle, en quelque sorte, des théories qui s'affrontent entre van Doesburg, entre Mondrian, des théories où van Doesburg invite des architectes à se confronter à cette idée de la création d'un nouveau monde. Et finalement, De Steyl, c'est un homme. C'est un homme également qui est à l'articulation, qui est à l'œuvre et qui est à l'organisation de ce mouvement, qui était au van Doesburg. Lui-même, Théo van Doesburg, qui est donc peintre et qui va faire éclater d'une certaine manière l'espace de la picturalité vers le champ social, vers une esthétique partagée, vers une esthétique qui s'incarnera, et c'est là l'objet véritablement de l'ambition en tout cas de van Doesburg, c'est d'aller vers la ville finalement, d'aller vers la construction de l'environnement collectif qu'incarne la ville moderne. Cette idée de l'interdisciplinarité, d'une certaine manière, est absolument centrale dans l'ambition de Théo van Doesburg et dans l'ambition des artistes du mouvement de Steyl. Et d'une certaine manière, elle s'oppose en quelque sorte à Mondrian, qui lui restera refusera d'appliquer son travail sur la picturalité à l'espace, au trois dimensions de l'espace, à l'architecture intérieure, à l'architecture, à la ville. La ville est pour Mondrian un objet théorique, mais en aucun cas un objet de pratique réelle. Et c'est probablement ce qui distingue finalement un homme, probablement, on est tous d'accord, un des plus grands peintres du XXe siècle, un homme qui se contentera, enfin, se limitera et restera dans le champ de la peinture et dans la planéité du mouvement, et un mouvement, un groupe d'individus, un groupe d'hommes qui vont justement chercher à faire éclater la picturalité à l'espace de l'architecture et de la ville. C'est finalement ces thèmes que l'on va aborder dans un premier temps avec Michael White et Marek Wieczorek. Dans un second temps, nous allons pointer des domaines spécifiques où s'exprime le mouvement de Steyl. Donc je passe dès à présent la parole à Michael White pour ce premier chapitre de ce colloque.